La vie du bon côté sur Vivacité.
Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 19 novembre. J'espère que vous allez bien. Nous évoquons donc ce lundi les difficultés et les solutions. Les solutions aussi, bien sûr, à envisager lorsqu'on vit avec un ou une dépendante, quelle qu'elle soit, quelle que soit la dépendance. Si vous avez un proche dans la dépendance, un conjoint, un enfant, vous pouvez vous-même beaucoup en souffrir, vous sentir impuissant dans une situation comme celle-là, vous sentir triste, culpabilisé, parfois même honteux ou insécurisé. Venez nous en parler donc ici au 070 23 33 23, SMS 30 63. Vivre avec un dépendant peut mener à s'oublier soi-même, oublier ses propres besoins. Bref, c'est pas facile, bien sûr, d'être de l'autre côté, ai-je envie de dire. Marie-Pierre Preud'homme, bonjour.
Bonjour Sylvie.
C'est vous qui allez assurer un petit peu la co-présentation avec moi aujourd'hui. Vous êtes psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie. Alors c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier soi, on a tendance à oublier ses propres besoins quand on vit avec quelqu'un
oui,
comme ça.
Tout à fait. Si on prend par exemple le cas de quelqu'un qui vit avec un dépendant au niveau de l'alcool,
oui.
On peut se sentir vraiment menacé, inquiet. Orienter vraiment sa vie sur l'autre, hein, donc guetter, quand rentre-t-il, est-il ou est-elle en route avec la voiture, et vraiment rentrer dans une sorte d'attente et orienter toutes ses activités en fonction de l'autre.
Mm-hmm. On devient dépendant de la dépendance de l'autre.
Voilà, c'est ça.
Vraiment oui, ça quoi,
tout à fait. Hein, mm-hmm. Donc on s'oublie et on veut de plus en plus aider l'autre. Et partant d'une bonne intention, pourtant, ce n'est pas toujours ça qui va aider l'autre à se reprendre en main. Et l'idée ici que je voudrais vous faire passer, c'est simplement qu'en ayant certains types d'attitudes, mais il n'y a pas de recette magique et ce que je vais dire là n'est pas nécessairement applicable à tous et à chacun. C'est au cours d'une psychothérapie qu'on voit ce qui est réaliste de proposer. Mais l'idée, c'est de non pas influencer son conjoint pour qu'il arrête de faire ou de consommer, mais l'idée, c'est comment faire pour le mettre en condition pour que lui ait envie de s'autonomiser, de reprendre le contrôle et de choisir plutôt que de subir.
070 23 33 23. SMS 3063. Si vous voulez encore une fois témoigner par rapport à ce sujet, sujet-ci, comment en tentant de sauver l'autre, ne pas en souffrir soi-même. Si la thérapie a pour but dans un premier temps de permettre de se remettre au centre de sa vie, un travail sur la confiance en soi et l'image de soi est utile aussi. Est-ce que vous avez fait un travail de cet ordre-là? Quelles alternatives se sont présentées à vous pour vous en sortir vous aussi, pour ne pas vous oublier? Certains décident peut-être de s'éloigner de la personne, d'autres de rester en l'acceptant telle qu'elle est, ou enfin, à l'aide du thérapeute, d'aider l'autre à s'en sortir par de nouveaux comportements. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, si vous avez été confronté à une personne dépendante que vous avez décidé d'aider? Nous en parlons donc aujourd'hui avec Marie-Pierre Preud'homme, psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie qui fait aussi avec des outils évidemment, une aide qui apporte une aide appropriée à la personne. 070 23 33 23, SMS 30 63 ou via la page Facebook de l'émission La vie du bon côté. Comment se positionner face à la dépendance de l'autre? On en parle jusqu'à 15h30. Vous vivez avec un dépendant, vos témoignages sont bien sûr les bienvenus. Aujourd'hui dans La vie du bon côté, comment vous positionnez-vous pour quelque part vous alléger un petit peu de cette le fait de vivre avec un dépendant? Comment, j'ai pas envie de dire vous sauvez-vous quelque part sans prendre la fuite, mais comment le vivez-vous intérieurement, comment vous le vivez, vous essayez de le vivre de la meilleure façon qui soit. 070 23 33 23, SMS 30 63, nous évoquons donc aujourd'hui les difficultés, les solutions à envisager lorsqu'on vit avec une dépendante, un dépendant. Évidemment, il y a plusieurs formes de dépendance et vous êtes déjà très nombreux à nous faire part de vos témoignages, de vos vécus personnels au 30 63. Continuez à le faire via la page Facebook de l'émission aussi. La vie du bon côté, bienvenue. Marie-Pierre Preud'homme, psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie, se penchera dans quelques instants sur les premiers témoignages. Nathalie nous dit sur la page Facebook de l'émission, mon mari Sylvie tente d'arrêter de fumer depuis septembre. Il ne fume plus, mais il est invivable, nerveux, agressif. Je pense qu'on n'est pas assez des abstinents de ce côté-là. D'entrée de jeu, avant d'entendre les premiers témoignages, Marie-Pierre, dire que il n'y a pas de recette magique applicable à tous. Chaque cas, je veux dire, est spécifique et chaque recette doit être appliquée à chaque situation, Marie-Pierre.
Oui, tout à fait. Néanmoins, il y a quand même toujours un tronc commun au niveau de l'aide d'une personne qu'on sent dans la dépendance, qui est, comme je le disais, cette invitation à aider l'autre à se reprendre en main et non pas à le pousser dans une direction qu'on pense être soit la solution. Parce que la sensation de dépendance n'est pas toujours nécessairement celle qu'on croit dans le chef de celui qui est dépendant. Hein. Les conséquences d'une dépendance, les inconvénients sont parfois très très différents et même peuvent être des intérêts aussi opposés au niveau du conjoint et au niveau de celui qui est dépendant. Donc voilà, ne jamais décider pour l'autre en tout cas.
Tout à fait. Béatrice nous dit par SMS au 3063, je suis dépendant de l'alcool, Sylvie. Mon entourage me protège de trop, ils m'étouffent à me surveiller, ils ne sont plus jamais tranquilles, ils croient que je ne fais pas d'efforts alors que moi je trouve que je fais énormément d'efforts, c'est signé Béatrice.
Voilà.
Sylvie, premier témoignage. On va y revenir dans quelques instants parce que je me doute que ce témoignage-là est intéressant. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Vous parlez, Sylvie, de votre conjoint qui est dépendant de la boisson.
Oui. Il est dépendant, ça fait 23 ans que je suis avec lui. Il fait toujours des promesses en disant qu'il va arrêter, mais il n'a rien qui va. Maintenant, quand il rentre à la maison qu'il a bu, il est seul.
Il ne veut pas que vous l'aidiez, Sylvie. Vous voulez lui apporter une aide? Quelle aide?
N'importe quoi, je ne sais. Justement, moi, je lui ai proposé d'aller faire une cure parce qu'il m'en parlait quand il était CF. Et je suis la première à l'encourager et tout, mais quand il commence à boire, ben c'est fini.
Est-ce que vous, Sylvie, vous avez pensé à vous faire aider? Pas Sylvie, hein, Sylvie. Ouais.
Je suis déjà tombée en dépression à cause de ça aussi. Et moi, je me suis fait aider pour ma dépression, pour essayer d'aider mon mari, mon conjoint avec mon fils.
Et est-ce que dans l'aide, on vous a proposé certaines attitudes à avoir ou au contraire à ne pas adopter?
On m'a déjà proposé une thérapie conjugale et lui, il ne veut pas. Mm-hmm. Il ne veut pas l'accepter non plus. Alors c'est ça que, on dit, pensez à moi, mais
voilà.
Je ne vis pas toute seule. Hein.
Pensez à vous.
J'aimerais aider mon conjoint, de s'en sortir parce qu'on vit ensemble.
Oui. C'est une situation qui est très difficile et qui est très, très délicate. En vous invitant à penser à vous, il est plus que probable que vous allez introduire des modifications dans votre vie à vous qui vont avoir un impact sur lui. Hein, donc je sais que ce n'est pas facile à faire, mais il y a vraiment une priorité qui est à mettre dans le fait de dégager la pression vis-à-vis de la personne qui est dans la dépendance. Parce que si elle se sent sous pression, elle va de plus en plus s'enfuir et se réfugier dans sa dépendance.
Pas évident, surtout que, comme dit Sylvie, elle a sombré dans la dépression, donc là, il a fallu évidemment intervenir pour elle-même, quoi.
Oui,
il y a eu quelque chose à traiter d'urgence. Premier témoignage de Sylvie. Marianne, bonjour.
Bonjour.
On parle d'un autre type de dépendance. Votre mari qui est dépendant
de la viande. Oui. Oui, c'est-à-dire que je suis végétalienne.
Oui.
J'ai élevé mes enfants végétaliens. J'ai montré, j'ai expliqué, j'ai tiré mon mari vers les abattoirs, vers les poules de batterie, et il n'y a rien à faire.
Et vous n'acceptez pas, alors? Vous voulez le faire changer?
C'est très dur, oui, c'est très dur pour moi.
Mais lui, il n'a pas envie de changer, lui.
Il n'a pas envie. Mais si, parce que 2-3 jours semaine, j'y arrive. Mais disons que je voudrais lui faire arrêter tout ça.
Ça, c'est plutôt
différent, hein.
une envie, voire une volonté de votre part de vouloir changer l'autre et les valeurs de l'autre, hein. Mais
oui,
je ne sais pas si on est vraiment dans une dépendance. Et au risque de vous choquer, je me demande qui est le plus dépendant dans cette histoire.
Oui.
Qu'est-ce qui vous embête, en fait? Chez lui?
Chez lui. C'est accepter de manger ça après avoir vu.
Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Plus dans le sens...
Après le savoir. Quand on fait... J'ai déjà été avec des amis, j'ai montré et ça a été terminé du jour au lendemain, voilà. Et là, c'est pas possible.
Et avec lui, ça ne marche pas.
Et non, apparemment, ça ne marche pas. Et évidemment, déjà, il a accepté que les enfants soient élevés dans cet état d'esprit-là, puisque
elle
nous a dit qu'elle avait élevé ses enfants qui étaient végétaliens aujourd'hui, quoi.
Ouais, une grande ouverture de sa part et c'est déjà magnifique qu'il ait accepté ça par rapport à ses enfants. Et
070 23 33 23 SMS 30 63. Si encore une fois vous voulez prendre la parole par rapport à cette dépendance, si vous vivez avec quelqu'un de dépendant, une personne quelle qu'elle soit et la dépendance quelle qu'elle soit aussi, quand j'ai quelle qu'elle soit, ça peut être un proche, ça n'est pas peut-être quelqu'un avec qui vous vivez. Ça peut être un frère, une sœur ou simplement un parent. 070 23 33 23. La question essentielle aujourd'hui qu'on vous pose, c'est qu'avez-vous mis en place si vous avez été confronté à une personne dépendante que vous avez décidé d'aider, quelle que soit la personne encore une fois. Nous parlons aujourd'hui jusqu'à 15h30 avec notre invitée Marie-Pierre Prudhomme, psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie. D'hypnothérapie, vous allez certainement en parler, qui fait aussi partie des outils utilisés principalement pour aider la personne à lâcher prise et à se visualiser dans les comportements prescrits par le thérapeute. Des messages qui nous arrivent, des dépendances très diverses, très diverses. Je vois ce témoignage qui n'est pas signé. Mon mari est très demandeur de sexe. Est-ce que c'est une dépendance? Je n'en peux plus. Je veux rester anonyme. J'espère qu'il y aura d'autres témoignages et que vous pourrez en parler. Claude est au bout du fil. Bonjour Claude.
Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Pierre.
Il s'agit d'achat compulsif en ce qui vous concerne. C'est vous en fait Claude?
Oui, c'est moi qui suis dépendante de tout ce qui est achat, mais voilà, je mets de côté la nourriture et tout ce qu'il faut au minimum pour vivre, et j'achète de tout et n'importe quoi.
Et là, votre demande, c'est comment est-ce que je peux me faire aider par mon entourage? C'est ça que vous vous demandez?
Ben oui, parce que finalement, c'est eux qui en subissent les conséquences, étant donné que je ne finis pas le mois avec ce que je gagne, quoi.
Et quand vous dites votre entourage, c'est au niveau du conjoint ou au niveau de parents?
Non, c'est plutôt au niveau de mes parents. Mm-hmm. Oui, plutôt au niveau de mes parents.
Voilà, donc là, il y a plusieurs façons de se faire aider. Et d'abord, je vous félicite. Je trouve que c'est extraordinaire de se dire, tiens, je pourrais, moi, prendre les devants et demander aux autres de m'aider. Il y a plusieurs façons. La première et la plus simple, c'est de consulter avec eux. De se rendre en psychothérapie et que le psychothérapeute puisse analyser comprendre les interactions et voir comment faire pour casser ce cercle et vous aider au mieux. Hein, ça c'est évidemment la solution la plus sage et la plus réaliste à envisager. Si vous n'envisagez pas de consulter, vous pouvez vous-même convenir de limites avec vos parents. Hein? Donc, il ne s'agit pas ici de laisser l'autre décider pour vous, mais ensemble de définir, j'aimerais que vous m'aidiez à, par exemple, me limiter au niveau du budget ou me mentionner telle ou telle chose quand vous sentez que je pourrais être enclin à faire du shopping à tout vent. Voilà, décider ensemble de mesures qui pourraient être prises pour vous aider.
Le problème, c'est que ça a déjà été fait. On a déjà essayé de tenter ce système-là. Mmh. Et moi, mon comportement change complètement. Je deviens hargneuse, j'en veux à tout le monde.
Oui. Donc, faites-vous aider. Hein. C'est bien plus facile quand une tierce personne peut avoir un regard sur le fonctionnement de la famille et donner certaines injonctions, donner certains conseils. C'est plus facile de les respecter.
Mmh. Et ces achats compulsifs, Claude, vous les faites à certains moments? Est-ce que ça découle d'une situation de stress, comme quelqu'un va ouvrir une bouteille ou fumer un paquet de cigarettes? Vous, c'est ça?
Quand je ressens un mal-être, que je suis triste, que je suis contrariée, voilà, c'est des réponses à ce sentiment, quoi.
Une espèce de fuite, alors. Échapper pour échapper à quelque chose quoi, qui ne va pas, quelque chose qui vous met mal.
Voilà,
exactement.
Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, Claude, aussi pour vous aider, c'est de trouver d'autres sources, d'autres pistes pour vous détendre. Hein. Donc, il y a à travailler vraiment sur le fond, un travail de fond sur ce qui peut vous angoisser, mais aussi pour éviter ces crises, de trouver une sorte de parade et de trouver d'autres choses qui pourraient être aidantes pour vous aider à vous déconnecter. Parce que la dépendance, c'est avant tout un problème quelque part de mono-idée ou de mono-solution. C'est-à-dire, on a la sensation qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut nous aider ou nous soulager. Et donc, on perd de vue qu'il existe bien, bien d'autres choses et d'autres sensations qui pourraient nous aider à avoir un état interne beaucoup plus confortable.
Marie-Pierre Preud'homme, c'est elle que vous entendez donc à diverses reprises et que vous entendrez encore durant l'heure qui suit, psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie, et votre cabinet se situe à Esneux dans la région liégeoise.
En région liégeoise.
Voilà, Marie-Pierre. Je lis le message de Maria qui nous est arrivé aussi au 3063. Mon ex était dépendant au jeu, au cannabis, à l'alcool. J'ai tout fait pour l'aider, tout. Communiqué à me rendre malade, à m'oublier. Il me promettait de changer en vain. Je l'ai enfin quitté. Je me sens beaucoup mieux, dit Maria.
Alors, il y a une chose, c'est que la promesse du dépendant, hein,
je vais changer.
Je vais changer. Mais souvent, quand il la formule, il en est lui-même persuadé et il en a vraiment, vraiment, vraiment envie. Et la première personne qui est déçue, mais vraiment très, très mal, quand elle ne respecte pas cette promesse, c'est le dépendant lui-même. Hein, donc, l'attitude à adopter est d'accueillir en fait cette résolution qu'a la personne, mais quand elle ne tient pas sa résolution, c'est vraiment avoir de la compassion vis-à-vis de cette personne qui est blessée et qui est déçue d'elle. Mmh. Et si on en remet une couche, si on rentre dans un jeu de culpabilité, le dépendant va davantage trouver refuge dans sa dépendance.
070 23 33 23 SMS 30 63. Si vous voulez donc témoigner aujourd'hui par rapport à ça, on se place plus du côté de l'entourage. Un message de parents qui nous écrivent au 3063. Ma fille est multidépendante, alcool, drogue, médicaments. Elle n'a que 21 ans. Elle a déjà fait 3 cures qui n'ont rien donné. Depuis 3 semaines, elle est retournée en cure. Nous ne nous faisons pas aider malgré les conseils des médecins. Notre famille en a pris un coup. Je ne peux pas passer à l'antenne. Merci de me donner malgré tout quelques conseils, de lire mon témoignage. Ça, c'est quelque chose évidemment de très, très important.
Il y a beaucoup à dire. Cette idée de cure. Donc, une cure va être envisageable lorsqu'il y a une dépendance physique et qu'il faut gérer le sevrage physique pour que il n'y ait pas de manque au niveau du produit et qu'il y ait des séquelles. Mmh. Alors, une cure peut se faire soit en hospitalisation, en éloignement de la famille, ou on peut faire à domicile une sorte de cure, mais la personne va rester dans son milieu familial. Mmh. Alors quand la personne est sortie de son milieu familial, c'est parfois aidant, mais je dirais quasi plus parfois pour la famille, pour qu'elle puisse respirer, parce que l'ambiance peut être vraiment très très difficile. Néanmoins, pour la personne, pour le dépendant, se retrouver en cure, ça veut dire se retrouver à l'extérieur, quelque part, de la vraie vie. Et lorsqu'on est replongé dans la vie, avec les personnes, avec les contacts, avec les fluctuations d'émotions, on peut très très facilement retourner vers ce qu'on connaît, c'est-à-dire la dépendance. Hein. Donc, un cas n'est pas l'autre, un cas n'est vraiment pas l'autre, mais ça c'est le danger de la cure, c'est d'être vraiment, on est sorti du monde, on est isolé, et après il faut revenir à la vraie vie. Alors moi quand je travaille sur les dépendances, évidemment ce sont des personnes qui viennent au cabinet et qui ne sont pas isolées du monde, et c'est ce que je leur explique quand il y a des pseudo-rechutes, que moi je n'appelle pas rechutes, mais ce sont des apports d'informations et c'est du feedback.
Oui.
Mais la personne, je ne sais pas moi, reconsomme de l'alcool ou du cannabis ou de la cocaïne ou peu importe. Ce qui se passe, c'est que étant vraiment dans le contexte de vie, quelque chose lui arrive elle le gère comme elle peut, et alors on débriefe de ça, on analyse ça, et on voit comment elle peut gérer autrement. Hein. Tandis que la cure, on est tout à fait exclu, et puis, paf, on est replongé dans le vrai monde. Donc moi, par rapport à ce témoignage, j'avais envie d'amener ça comme éclaircissement au niveau de l'idée de cure. Et je ne peux que encourager ces personnes à consulter, et consulter en thérapie familiale, en thérapie systémique, entre autres, pour vraiment comprendre les mécanismes, les interactions, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui entretient la dépendance chez la personne. La consultation, pour moi, en thérapie familiale, est tout à fait adéquate et peut vraiment être d'une très grande aide pour tout le monde.
Et avec Marie-Pierre Prudhomme, psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie, beaucoup de témoignages interpellants que nous lisons bien sûr hors antenne au 3063. Clara nous dit « Mon mari est dépendant des somnifères. Depuis 2 ans, il ne sait plus s'en passer. Du coup, ça joue sur sa fertilité. J'ai envie de moi d'avoir un enfant. Ça ne marche pas. Quand j'essaie d'en parler avec lui, ça ne donne que des disputes. Difficile, évidemment, de réagir par rapport à ça. »
Oui, se faire aider, encore une fois, parce que là, on est vraiment dans un mécanisme au niveau du couple. On est vraiment dans une interaction. En plus, il y a cette idée d'avoir un enfant qui est quand même quelque chose de vraiment important. Et il se peut, mais je ne sais pas, il se peut que ça entretienne un petit peu le problème.
Caroline nous dit « Mon compagnon avec laquelle je ne vis pas me fait des scènes tous les jours et me menace de rupture si je n'arrête pas de fumer. À noter que je ne fume jamais en sa présence, mais c'est un stress permanent. A-t-il raison d'agir comme ça ?» Puisque vous parlez des conjoints, nous dit Caroline.
Aïe, aïe, aïe. Dommage que ce n'est pas lui qui nous contacte.
Et bien sûr, bien sûr.
Mais effectivement, non, il fait ce qu'il peut. Et il est très touché par le fait que la femme qu'il aime fume. Mais il n'a pas la réaction adéquate. Là, il ne fait pas ce qu'il faut pour l'aider à arrêter. Juste un petit mot à ce sujet, c'est que dans les sevrages tabagiques que je fais, la première chose que je dis à la personne, c'est surtout n'en parlez pas. Ne dites pas que vous faites un sevrage tabagique. Et ça pour plusieurs raisons. Enfin, je vais en citer les deux principales. La première, c'est pour ne pas se faire mettre la pression. C'est-à-dire, je viens pas, mais quoi, t'es pas en train de faire un sevrage, toi, mais qu'est-ce que tu fous encore à fumer, là, maintenant, voilà. Alors qu'il y a un moment adéquat pour arrêter, spécifique dans le sevrage. Donc, la première chose, c'est pour ne pas se faire mettre la pression. Et puis aussi, quand on a arrêté de fumer, et que d'autres reviennent vers vous et qui vous disent, alors, ça va bien? Tu tiens bien le coup? Mais comme par miracle, il nous manque toujours ça quand justement on est en train un peu d'oublier la cigarette. Voilà, donc il y a plein de raisons qui font que j'invite à ne pas parler, à ne pas évoquer dans son entourage sa décision de se départir, que ce soit du tabac ou d'une autre assuétude. Tabac qui est une drogue dure, ça, reconnu en tant que tel par l'OMS.
Absolument. Bonjour mesdames, nous dit un auditeur. Quand j'ai rencontré mon épouse, je buvais beaucoup. Elle m'a demandé d'arrêter. Je ne lui ai rien promis. Je lui ai juste dit je vais essayer. J'ai arrêté tout seul, signé un routier sympa. Malheureusement, on n'arrive pas à le joindre. Il est sans doute occupé, donc il ne peut malheureusement pas nous donner son témoignage. Ça aurait été intéressant.
Ça aurait été intéressant de voir comment lui, il a vécu la réaction de sa compagne, de son épouse, et de voir ce qui a fait, qui lui a donné envie, lui, de se libérer de ça. En tout cas, une chose qu'il annonce, c'est qu'effectivement, il n'a pas pris d'engagement vis-à-vis d'elle. Il n'a pas dit « je vais arrêter ». Et donc ça, c'est une façon vraiment de ne pas se mettre la pression et d'être toujours dans la réussite.
Tout à fait. Tout à fait. Dommage, mais enfin, si vous y entendez ce petit passage que l'on vient de faire à votre sujet et que vous pouvez dans quelques instants nous appeler, ce serait sympa d'avoir votre témoignage. Merci évidemment pour tous vos témoignages, puisque vous nous parlez de vos dépendances, de dépendances qui concernent vos proches. Je lis ce message. Ma fille ne peut se passer, Sylvie, de chocolat. Elle en mange tous les jours. Impossible pour elle d'arrêter. J'aimerais l'aider. Ou encore Ludo nous dit, je suis en plein sevrage tabagique. C'est dur. Autre message, j'ai déjà fait ces deux cures, ça ne sert à rien. On est comme dans un cocon. Beaucoup de personnes nous demandent aussi si l'hypnothérapie peut aider une forme de dépendance, peut aider non seulement le dépendant, mais aussi la personne qui partage la vie d'un dépendant. On en parlera juste après le flash de 15h. Dans quelques instants, autre témoignage. Encore une fois, on vous demande ce que vous avez mis en place, si vous vivez aux côtés, si vous avez vécu aussi aux côtés d'une personne dépendante. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous en sortir et en même temps l'aider? Pourquoi pas? Ce serait intéressant d'avoir fait les deux finalement, d'avoir fait le travail pour deux. C'est un petit peu ça qu'on vous demande aujourd'hui. J'ai 56 ans, Sylvie, j'ai arrêté de fumer le 28 octobre 78. Pas mal, hein? Nous dit cet auditeur. Oui, c'est pas mal, bien entendu.
Félicitations.
Depuis tout ce temps, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous avez arrêté, mais surtout comment ont vécu la situation les personnes de votre entourage. Dominique nous dit, j'ai arrêté de boire et de fumer, cela avec l'aide de ma compagne. On essaiera de vous joindre, bien sûr, Dominique, ou encore autre message. Elle ne m'a pas jugée, elle m'a juste écoutée, elle m'a fait un beau sourire. Je ne savais pas que c'était elle. Je buvais jusqu'à 3 casiers par jour, plus sur le côté le routier sympa, d'accord, qui ne pouvait pas témoigner, mais qui nous en dit un petit peu plus sur la façon dont sa compagne l'a aidé à arrêter cette dépendance. Beaucoup de questions par rapport à l'hypnothérapie. Je suis dépendant à l'héroïne depuis 7 ans. J'aimerais tant arrêter. De plus, ma femme a suivi là-dedans. Je m'en veux, car elle ne méritait pas ça. L'hypnose pourrait m'aider, ou l'hypnothérapie, on en parle aussi, pourrait-elle aider ces personnes-là? Ça, c'est à vous, bien sûr, qu'on pose la question, Marie-Pierre.
Oui. Alors, comme on est ici dans l'optique de voir ce qu'on peut faire pour le conjoint de dépendant, je vais commencer par ça. On verra le temps qu'il nous reste. Donc, lorsque j'accompagne des personnes qui sont conjoints de dépendants, nous travaillons entre autres en hypnothérapie. La première chose qui est travaillée, c'est au niveau du lâcher prise, au niveau de la confiance en soi, de pouvoir récupérer son individualité au sein du couple. Alors, il y a une autre partie du travail qui est faite également en hypnothérapie, qui va être d'aider à se visualiser dans de nouveaux comportements.
Ah oui.
Parce que vous connaissez une des définitions de la folie?
Dites-moi.
Non, des définitions de la folie, c'est toujours faire la même chose et escompter avoir un autre résultat.
Hein?
Donc ici, pour vous illustrer que pour pouvoir changer un comportement, une situation, on va devoir modifier certains comportements ou certaines séquences comportementales. Donc il n'est pas toujours facile de changer, hein? Ça fait partie de ce qui nous habite, cette résistance au changement. Donc pour pouvoir passer outre cette résistance au changement et l'assouplir, le travail en hypnothérapie est d'une très très grande valeur et va amener à pouvoir changer de façon durable et de façon confortable. Donc, se visualiser en train d'adopter un autre comportement vis-à-vis de son conjoint est quelque chose qui se pratique dans le cours des séances de psychothérapie pour l'aide aux conjoints de dépendants.
Marie-Pierre Prudhomme, je viens de mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie, psychothérapeute d'hypnose Liège, hein,
c'est ça.
Votre site internet en plus qui est en ce moment sur la page Facebook de l'émission. Témoignage d'André, intéressant, interpellant. André, bonjour.
Bonjour.
Félicitations,
bonjour, André.
Oui,
vous avez bu, dites-vous, pendant
30 ans. C'est pas un mérite.
Ouais, pendant 30 ans, vous étiez dépendant d'alcool, vous avez arrêté depuis 10 ans.
Depuis 10 ans.
Pourquoi? Quelles ont été les aides qui vous ont été apportées, André?
Bah écoutez, je bois depuis l'âge de 20 ans, donc j'ai été à l'armée et j'ai tombé dans l'alcoolémie directement, enfin, très tôt. Et puis alors, j'avais un boulot qui était très important et malgré tout, j'ai continué à boire. J'ai fait deux cures d'alcool, donc, pour l'alcool, et à côté de Valkenrat et une à Namur, et c'était depuis tant pis. Malgré tout ce qu'on me disait, les docteurs me disaient, monsieur Le Charrier, si, j'ai dit mon nom, pardon, monsieur, si vous continuez à boire, dans 6 mois, et il m'a dit textuellement, là, médecin, dans 6 mois, vous serez crevé. Là, évidemment, ça m'a fait sursauter, mais malgré tout, je suis revenu chez moi, et 2 mois après, j'ai recommencé.
Qu'est-ce qui vous a aidé dans le comportement des personnes de votre entourage?
Ben écoutez, je n'ai pas fourré dans le comportement de mon entourage, parce que j'étais avec tout buveur. Donc je passais mes après-midi, quand j'avais fini mon travail, je l'ai passé au café avec tout buveur. Et une fois que j'ai arrêté de boire, ben, j'ai perdu la grande part de mes amis, puisque bon, je ne les intéressais que pour boire.
Donc c'est en quelque sorte une initiative, André, personnelle.
Ben non, pas personnelle, pour ma compagne, parce que bon, elle m'a quitté quelques jours. Mais ça, elle est revenue et puis ben, ça n'a rien changé. Et puis alors, je ne sais pas, j'ai eu deux petits enfants, ma fille a accouché, deux petits enfants. Voilà, je me suis dit André, voilà, tu as la voiture, tu ne conduiras jamais tes petits enfants nulle part parce que ta fille ne te les prêtera pas, te laissera pas partir avec en vacances sûr, et compagnie. Et disons qu'ils m'ont un peu, ça m'a beaucoup interpellé et voilà. Et ben... disons qu'un jour matin, je me suis levé. Et voilà, j'ai dit à ma femme, écoute, donc après deux cures, et j'ai dit à ma femme, écoute, voilà, je ne bois plus à partir d'aujourd'hui. Elle m'a dit, mais André, tu es fou, quoi, tu m'as dit des centaines de fois. Et voilà, je me suis levé, j'ai dit, tu me laisses trois jours à la maison pour faire un début de sevrage. Ça a été lamentable parce que je grimpais au mur. Et puis j'étais au A, j'ai sonné, j'étais au A. Et voilà, ça fait 10 ans que je ne touche plus un verre d'alcool.
Et on est fiers de vous, André, merci pour votre témoignage, on espère encore en avoir.
Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Et Marie-Pierre Preud'homme, psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie, hypnose Liège, c'est votre site internet que nous avons mis sur la page Facebook de l'émission, encore une fois, si vous voulez aller cliquer sur ce site pour avoir accès à toutes les informations d'hypnose Liège Esneux, puisque vous nous venez de la belle région de Liège. Je lis les messages qui nous arrivent au 3063, il y a des messages bien sûr de découragement, des messages qui vont dans l'autre sens, des personnes qui n'ont pas pu apporter l'aide que désirait peut-être la personne dépendante. La dépendance de mon mari à l'alcool lui a ôté la vie il y a 5 ans, c'est un message qui n'est pas signé. Une partie de mes enfants et de moi-même est morte avec lui, beaucoup de colère, beaucoup de blessures ouvertes à jamais. Il faut savoir que ce genre de message nous arrive aussi. Pour aider un dépendant, il faut qu'il en soit conscient, cela cache parfois d'autres problèmes. Mon ex était dépendant du boulot, en dehors rien n'intéressait, je l'ai quitté à bout et très mal en point. Ou encore un mari dépendant du tabac et de l'alcool, acupuncture, patch, soutien, rien n'a fait, si le dépendant ne le souhaite pas.
Oui, le témoignage précédent m'interpelle avec cette idée que la dépendance est en
cache
fait
d'autres problèmes.
Cache d'autres problèmes. Oui. La dépendance, en fait, est une tentative de solution à d'autres problèmes.
Ou une fuite quelque part, c'est une façon non de.
Appelons-la
d'essayer
plutôt,
en tout cas.
Oui, c'est ça, essayer. C'est une tentative de solution. Donc, ouais, c'est-à-dire, ouais. La personne est dans un mal-être, la personne ne trouve pas comment résoudre quelque chose et elle s'apaise par une voie qui est la dépendance. Et dépendance, ben, on est dépendant, donc il y a souvent, enfin pas toujours, mais quand il y a une dépendance physique, alors le chemin est déjà tracé et on retombe toujours dedans. Donc effectivement, c'est bien que cette personne ait mis ça en évidence. La dépendance n'est pas le vrai problème. La dépendance est une tentative de solution à un autre problème sous-jacent. Donc c'est ce problème sous-jacent qu'on va travailler en thérapie. Hein. Donc c'est une invitation aussi à ne pas se focaliser juste sur ce symptôme qui est la dépendance.
Est-ce que ces mots vous parlent, Jean-Paul ? Bonjour.
Oui, bonjour Sylvie.
Bonjour Jean-Paul. Ça fait écho chez vous ce que Marie-Pierre vous dit ?
Ah, pourtant j'ai été à la radio.
Vous avez été à la radio. Elle disait que la dépendance en général, oui. Puisque on parle de votre dépendance qui a duré 15 ans, Jean-Paul. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, ben suite à plusieurs chocs émotionnels, bon ben que je n'ai pas su contrôler, ben voilà, j'ai commencé à devenir indépendant à l'alcool et bon ben voilà, moi je dirais toujours j'ai perdu 15 ans de ma vie, 15 ans de notre vie parce que mon épouse a dû supporter ça pendant 15 ans et suite donc je me suis retrouvé à l'hôpital à cause de l'alcool, j'ai fait une pancréatite. Et voilà, bon, mon épouse a dû rester 2 mois seule à la maison, le temps que je revienne. Et on m'avait conseillé, j'ai eu une dame à l'hôpital qui participe à des réunions AA et qui m'a invité à y venir une fois. Et voilà, c'est devenu ma marraine en fait. Mmh. Et bon, ben, le jour où je suis sorti de cette réunion, la toute première réunion, j'ai arrêté l'alcool. Ça fait 22 mois maintenant. Et voilà, et je suis un, tout le monde me dit que je suis un tout autre homme parce que l'alcool, bon ben, oui, ça vous fait oublier un jour vos problèmes, mais le lendemain, les problèmes sont toujours là. Et maintenant, tout qui me revoit, ben voilà, j'en suis fier. Et mon épouse, tout le monde lui dit, ton époux, t'as un nouvel homme, voilà. Et voilà.
Félicitations.
Et voilà. Et vous la remerciez pour sa patience, évidemment, pour son amour qu'elle continuait à vous donner. Parce que, voilà, Jean-Paul.
Et maintenant, on rattrape le temps perdu, parce que moi, je dis, comme on a perdu 15 ans de moi, à cause de moi, on a perdu 15 ans de notre vie, et voilà, on refait plein de trucs maintenant qu'on ne faisait plus, quoi. Et voilà.
Félicitations, Jean-Paul. Moi, j'aurais envie de vous dire que ces 15 ans que vous considérez comme perdus ne sont absolument pas à considérer, à être considérés comme ça. Vous avez appris énormément de choses, vous avez grandi, votre couple a tenu pendant tout ce temps, donc ce n'est certainement pas un temps qui est à être considéré comme perdu. Et ce que je me demande et que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a aidé dans l'attitude de votre compagne de vie?
Ce qui m'a aidé, bon ben.
Elle vous a pas enfoncé, Jean-Paul?
Non, pas du tout. Donc que du contraire, quoi. Bon, elle a essayé de me rebooster et tout ça. Et je vous dis, il a fallu ce déclic en moi, puisque on m'a dit bon, encore une goutte d'alcool et bon ben voilà, vous perdrez la vie, quoi. Et ça, bon, je dis, j'ai encore quelques années à vivre, j'espère, et donner tout mon amour encore à mon épouse et aux autres personnes qui m'entourent, parce que je suis quelqu'un qui adore donner, quoi, sans demander un retour, quoi. Voilà. Et j'essaye maintenant, quand je vois quelqu'un, j'ai un ami à moi personnellement, ben, qui boit beaucoup aussi, et quand je peux essayer d'aider quelqu'un, et voilà, les jeunes abstinents, ben, je leur explique tout ça, et je crois que on doit faire ça, on doit faire absolument.
Eh bien, vous avez bien fait de venir dans notre émission, Jean-Paul, et de témoigner, bien entendu. Félicitations encore une fois, et profitez bien de votre épouse, puisque, encore une fois, le thème qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de se mettre du côté de la personne qui vit avec une personne dépendante. Et là, je pense que vous lui témoignez votre amour et vous lui dites merci pour sa patience. Et j'espère, encore une fois, que vous profitez, comme vous le dites, mais apparemment, c'est ce que vous êtes en train de faire, de tous les moments présents à deux, bien entendu, puisque vous êtes toujours ensemble. Qu'avez-vous mis en place si vous avez été confronté à une personne dépendante que vous avez décidé d'aider? Encore une fois, c'est peut-être une question aussi qui peut concerner des personnes autour de vous qui n'auront pas eu l'occasion d'écouter l'émission. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'émission peut être réécoutée sur le site de vivacité.be si ça peut aider, bien entendu, des personnes. Autre information qui peut vous aider, qui peut aider ces personnes, le site internet de Marie-Pierre Preud'homme, qui est notre invitée, psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie. Psychothérapeute d'hypnose Liège-Esneu. Le site est en ligne sur la page Facebook de l'émission. C'est Dominique, je pense, qui est en ligne. Dominique, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Dominique.
Vous nous dites que vous avez été aidé, Dominique, par votre épouse. C'est bien ça?
Ma compagne.
Votre compagne.
Enfin, c'est... Oui, c'est ça.
Par madame. Par votre compagne.
Par madame.
Ça concerne...
C'est J'ai arrêté de boire il y a 4 ans et demi.
D'accord.
Et je buvais une bouteille de pastis tous les 2 jours.
Oui.
Et encore du vin le soir avec elle. Et puis un jour, ça devenait vraiment la bagarre, enfin, des discussions longues, et sur lesquelles je prétendais toujours avoir raison, mais peu importe. Et voilà, et pour finir, la peuresse m'a aidé avec un médicament, et ça a duré 2 mois. Et depuis 4 ans et demi, j'ai pu toucher une goutte d'alcool, mais vraiment, même pas un verre de vin, pas une bière, rien du tout.
Si vous deviez définir en quelques mots l'aide que vous a apporté votre compagne, alors
C'est ça, la manière de m'avoir présenté la chose et le fait que je me suis rendu compte que je m'enfonçais de plus en plus, je dormais très mal, je devenais très, très négligent, etc. etc.
Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait ou qu'est-ce qu'elle vous disait qui...
Les jours, elle m'encourageait, elle était contente, elle a arrêté de boire aussi avec moi.
Ouais.
On a arrêté carrément pendant 6 mois, à peu près ensemble. Mm-hmm. Elle reboit son verre maintenant de temps en temps, une bouteille de vin, etc. Mais bon,
et sans dépendance.
Oui, sans dépendance. Sans dépendance. Et moi, je n'ai plus rien touché depuis 4 ans et demi.
Félicitations. Qu'est-ce qui fait que vous continuez, vous, à rester abstinent alors qu'elle a choisi de reprendre un verre de temps à autre?
C'est parce que je me sens nettement mieux. Voilà, c'est tout. Je me sens nettement mieux qu'avant, je dors bien, je n'ai pas de problème de santé, je n'ai pas de problème de tension, etc. Pourtant, j'ai quand même un âge avancé. Et tout ça est redevenu parfait à peu près. Et arrêter de fumer, ça a été la même chose. J'ai pris du champi, aidé par une tabacologue de Montgodine. Et elle, elle m'avait demandé d'envoyer un mail comme quoi j'avais arrêté, mais je roulais mes cigarettes. Et alors, au bout de 15 jours, vous devez retourner la voir, et elle a commencé à me disputer comme un petit gamin. À juste titre, elle avait raison. Et j'avais 60 ans à ce moment-là. Et puis, en sortant, j'ai roulé directement ma cigarette. Mais le trajet pour aller à ma voiture, je me suis rendu compte qu'elle avait raison, puis c'était tout. Et j'ai jeté mon paquet, ma boîte à cigarettes et mon briquet. Depuis là, j'ai plus fumé non plus.
Merci.
Alors, contrairement à ce que vous disiez là tantôt,
oui,
le fait de le dire à tout le monde, j'étais binouche comme tout, comme on dit chez moi, j'étais content comme tout et fier.
Vous, ça vous a motivé. Vous l'avez dit quand vous vous êtes senti libéré ou avant d'entamer la démarche de sevrage?
Oh, je me suis senti libéré après l'avoir entamé la démarche, ça oui, franchement.
Oui, mais vous l'avez dit aux autres à quel moment?
Ah, quand... je chante encore, hein, je le dis tous les jours.
Oui, ok.
Oui, merci Dominique. Merci, merci pour votre témoignage, puisque vous entrez absolument dans la thématique qu'on développe aujourd'hui, puisqu'il peut avouer, il peut le dire. C'est aussi avec l'aide de sa compagne qu'il a arrêté cette dépendance à l'alcool. Le routier sympa qui a été cité à plusieurs reprises, il est là. Bonjour.
Bonjour.
Comment
bonjour.
S'appelle le routier sympa?
Il s'appelle Eric.
Il s'appelle bonjour, Eric. Quand vous avez rencontré votre épouse, vous buviez beaucoup. Elle vous a demandé d'arrêter. Vous n'avez rien promis. Vous ne lui avez rien promis. Vous avez juste... vous vous êtes dit, je vais essayer. Pour vous alors d'abord, Eric?
Pas pour moi. Parce
pour
que,
elle
en fait, j'ai eu le coup de foudre envers mon épouse. Mm-hmm. Et j'avais arrêté complètement le travail. Et alors, un jour, je me suis dit, allez, je vais reprendre. Je suis retourné en international. Et j'ai su que quand je roulais en camion la semaine, j'avais pas besoin d'alcool. Mais une fois le vendredi, il fallait tout de suite que j'aille dans un magasin chercher, je vais dire, ma dose de bière. Et alors, ce jour-là, je me suis dit, si je peux arrêter la semaine, je peux arrêter le week-end. Alors, j'ai arrêté, tout doucement. Et maintenant, je touche, une bière ou deux pendant les fêtes, c'est tout.
Et tout seul, absolument sans aide.
Elle m'a pas aidé, tout ce qu'elle a fait, c'est me soutenir, elle m'a pas jugé, elle ne m'a pas...
Quand vous dites tout ce qu'elle a fait, c'est de me soutenir, mais c'est énorme quoi, Marie-Pierre, quand on dit ça.
Là, ce que vous venez de dire, c'est vraiment deux piliers d'aide très très précieuses. Hein. Elle ne m'a pas jugé, elle m'a soutenue. Ouais. Ça, c'est... elle a fait énormément.
Bien sûr. Donc c'est ça quand encore une fois des personnes disent moi j'ai rien fait. Oui mais si quoi. Le fait de ne rien faire,
justement,
c'est déjà énorme.
Être présent,
et de
présent
ne pas enfoncer
à l'autre,
de ne
sans
pas
jugement.
Sans arrêt faire des reproches, parce que je pense que la majorité des personnes le font.
C'est
humain,
fréquent.
C'est fréquent. C'est la première réaction à chaud par rapport à une personne qui s'enfonce. Quoi.
C'est une réaction de souffrance.
Bien sûr.
C'est une réaction de souffrance qui amène à ça. Mais ce que nous témoigne notre routier sympa est vraiment d'une grande valeur. Hein. Ça, la présence de l'autre qui est là sans jugement et qui est là vraiment pour le soutien, qui est présent. Et ça, c'est extraordinaire.
Merci Eric pour ce témoignage. Dernier peut-être témoignage d'ici quelques instants, juste après Simon & Garfunkel dans La Vie du Bon Côté. On parle de ces personnes qui aident d'autres personnes dépendantes. Simon & Garfunkel sur Vivacité. Je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression qu'on associe la programmation des titres de Simon & Garfunkel à la période hivernale ou la période des fêtes, pas vous? Je sais que quand j'entends Simon & Garfunkel, on n'est pas loin de Noël. Je sais pas pourquoi.
Ça me donne envie de chanter. Mais je me suis juste arrêtée à temps.
C'est vrai que c'est très très bon. J'aime bien ce message. Malheureusement, la personne ne peut pas témoigner. Et je pense que ça vous fait penser, Marie-Pierre Prudhomme, à un cas similaire que vous avez connu. Mon petit ami était alcoolique, nous dit donc cette personne. J'étais enceinte, je voulais qu'il s'en sorte pour la naissance du petit. À force de patience, de thérapie comportementaliste, on y arrive. Le plus dur était les rechutes. D'abord une par semaine, puis une par mois. Maintenant, il ne boit plus, sauf en société. Je suis fière de lui. J'ai essayé de pointer ses avancées plutôt que ses rechutes. Aujourd'hui, notre petit a un an et a un super papa.
C'est génial.
Super message. Et ça vous fait penser à quelque
chose? Moi, ça me fait penser, oui. Ça me fait penser à une personne que j'ai aidée, une jeune personne qui était enceinte et qui voulait que l'enfant naisse dans de bonnes conditions, avec un papa qui avait un problème de dépendance à l'alcool. Et on a travaillé exactement de cette façon-là. C'était pas le même prénom, hein, donc voilà, il n'y a pas d'interférence. Mais nous avons travaillé effectivement en hypnose, en comportemental, et en mettant l'accent vraiment sur les succès et en se réjouissant, ah ben waouh, 3 jours sans, et ça on le fêtait pas au champagne, hein, Sylvie. on mettait vraiment, et ça c'est issu de la thérapie orientée solution, mettre l'accent sur parfois ces tout petits moments qui sont des moments de succès. Et ça c'est un petit peu ce que je ne sais pas si on doit conclure maintenant,
oui,
ou je peux dire,
oui, vous pouvez conclure.
Ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est que la vie avec un dépendant n'est pas facile, hein, pas facile du tout, du tout. Une grande invitation à se faire aider en couple et en famille, c'est l'idéal. Si ce n'est pas possible, se faire aider seul. Et si on décide de se débrouiller seul, simplement, ce n'est pas simple, hein, mais de réaliser que ce qui va aider l'autre, c'est de savoir qu'on est là, hein, de lui proposer son aide, mais sans vouloir lui imposer quoi que ce soit, hein, ne rien imposer du tout.
Merci Marie-Pierre Prudhomme, psychothérapeute spécialisée en hypnothérapie, hypnose Liège-Esneux. C'est sur la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté, si vous voulez aller cliquer.